C'est une lecture dans le livre des Actes, à laquelle je vous invite. Les personnes participant aux ateliers bibliques ont lu ce texte et étudié, mais il y a déjà, je pense, quelques semaines, sinon quelques mois. Livre des Actes, donc, au chapitre 17, à partir du verset 15, et nous irons jusqu'au verset 34. Acte 17, verset 15 et suivant. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent, apportant à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Pendant que Paul les attendait à Athènes, il avait le cœur outré à la vue de cette ville toute pleine d'idoles. Il discutait donc dans la synagogue avec les Juifs et les prosélytes, et chaque jour sur la place publique avec ceux qui s'y rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens conféraient aussi avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» et d'autres « Il semble annoncer des divinités étrangères. » Car Paul leur annonçait Jésus et la résurrection. Ils le prirent avec eux et le menèrent à l'Aréopage en lui disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions bien savoir ce que cela veut dire. » Or tous les Athéniens, aussi bien que les étrangers, qui séjournaient à Athènes, ne s'occupaient qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Alors Paul, se tenant au milieu de l'Aréopage, dit « Athéniens, je vois qu'à tous égards, vous êtes, pour ainsi dire, dévots à l'excès. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre culte, j'ai trouvé un autel portant cette inscription « Au Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous honorez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples bâtis par la main des hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration, tous les biens. Il a fait naître d'un seul homme toutes les nations, et il les a fait habiter sur toute l'étendue de la terre, ayant fixé le temps précis de leur existence et les limites de leur demeure, afin qu'elles cherchent Dieu et s'efforcent de le trouver comme en tâtonnant, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Étant donc de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à l'or, à l'argent ou à la pierre sculptée par l'art et le génie de l'homme. C'est pourquoi, ne tenant pas compte de ces temps d'ignorance, Dieu invite maintenant tous les hommes, en tout lieu, à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par l'homme qu'il a établi pour cela. Et il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent. Les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». C'est ainsi que Paul se retira du milieu d'eux. Il y eut cependant quelques personnes qui se joignirent à lui et qui crurent. De ce nombre était Denis, membre de l'Aréopage, une femme de nez d'Amaïs et d'autres encore avec eux. Nous arrêterons là la lecture de la parole de Dieu. Paul a l'occasion de s'adresser aux Athéniens, ces hommes qui, nous dit notre texte, passent leur temps à dire ou écouter quelques nouvelles. Paul adapte son discours à ce qu'il sait et à ce qu'il a vu à Athènes et il fait référence à la culture des Athéniens, leurs habitudes, leur vécu religieux. Mais s'il adapte la forme de ses propos et utilise ce à quoi les Athéniens s'attachent dans leurs croyances et leurs coutumes, il n'adapte pas l'essentiel du message qu'il veut communiquer. Savoir, premièrement, Dieu a créé ce monde, le seul Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, ce Dieu dont les hommes devraient avoir conscience déjà qu'il existe et est d'une autre nature que les dieux et les idoles de la mythologie grecque. Deuxièmement, Dieu juge les hommes pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils sont à ses yeux. Troisièmement, Dieu annonce aux hommes qu'ils aient à se repentir de leurs actes, de leur vie. Enfin, quatrièmement, il est quelqu'un, dit-il, qui va être l'instrument de cette justice et dont l'autorité a été manifestée fortement par ce fait extraordinaire que Dieu l'a ressuscité des morts. et ces Athéniens, ces hommes qui passent leur temps à écouter quelques nouvelles que ce soit. Arrête Paul à ce moment, il ne peut aller plus loin dans son exposé de la bonne nouvelle de l'Évangile. Les réactions suite à ce discours écourté de l'apôtre sont de trois sortes. La moquerie, les uns se moquèrent, dit notre texte. L'indifférence, bon, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Et la foi, enfin quelques-uns néanmoins crurent. Ces trois réactions face à l'annonce de l'Évangile sont finalement les réactions qu'aujourd'hui encore l'annonce de l'Évangile suscite, à quoi peut s'ajouter le rejet violent, l'agressivité, voire la persécution et même la mise à mort des témoins de l'Évangile. Mais peut-être pourrait-on dire que le rejet violent de l'Évangile est fils de la moquerie et de l'indifférence. Je vous propose ce matin de nous arrêter sur ces trois réactions que ce texte des Actes nous présente. Moquerie, indifférence et foi. Nous verrons que ces réactions ne sont pas sans nous interpeller nous-mêmes. En effet, comment nous positionnons-nous nous-mêmes face à cette affirmation de Paul, et il faut le dire, de tout le Nouveau Testament, de la résurrection de Christ. Et même si nous avons confessé Christ comme notre Seigneur et Sauveur, cette affirmation, Christ est ressuscité, est quelque chose à quoi nous nous devons de répondre et que nous nous devons de vivre tous les jours de notre vie. Alors, première réaction des auditeurs de Paul, la moquerie. Les Athéniens, apparemment, sont prêts à entendre et à croire n'importe quoi. Les dieux de leur panthéon, ils peuvent y adhérer, mais sans doute parce que cela reste du domaine de l'imagination, pourrions presque dire de la littérature. Et cela a peu d'impact, ou pas d'impact, sur leur vie personnelle, propre, très peu, voire pas de dimension morale dans leur religion. Ainsi, lorsque Paul parle de l'ignorance coupable des hommes, du besoin de repentir, du jugement à venir, ils sont peut-être déjà mal à l'aise. Et l'annonce que Paul fait de la résurrection de celui qui va juger les hommes, ils sont presque heureux face à cela de pouvoir rejeter par la moquerie la résurrection des morts. Résurrection des morts, vraiment. Moquons-nous et oublions le reste qui peut-être nous condamnerait, au moins nous questionnerait. Paul, toi, l'étranger, tu nous annonces quelque chose de ridicule, franchement. Cela nous permet de ne pas prêter attention à ce que tu nous as dit concernant ce Dieu unique, ce Dieu créateur, qui juge le comportement et la vie des hommes. Ouf. Moquons-nous. Moquons-nous et passons à autre chose, à quelques autres nouvelles moins ridicules, moins interpellantes. Nous connaissons tous autour de nous des personnes qui se moquent de l'affirmation de la résurrection de Christ. Alors vraisemblablement, si vous êtes ici ce matin, dans cette salle ou dans celle du bas, vous ne faites pas partie de ces moqueurs, de ces négationnistes. Peut-être, cependant, êtes-vous ici sans avoir vraiment mesuré cela. Nous croyons, quant à nous, et annonçons Jésus-Christ mort pour le péché des hommes, pour notre péché et le vôtre, et ressuscité des morts, et vivant aujourd'hui. Nous n'annonçons pas seulement Jésus né dans la crèche, même si nous nous en souviendrons particulièrement bientôt à Noël, ni Jésus mort sur la croix. Nous croyons et annonçons que Christ est ressuscité et qu'il est vivant aujourd'hui. Vous savez, il n'y a pas trois possibilités. Soit Jésus-Christ est ressuscité, soit il ne l'est pas. Et si vous ne le croyez pas, vous êtes, sans le manifester bruyamment comme ces Athéniens, de ceux qui se moquent de cet acte unique dans l'histoire du monde. La résurrection de Jésus d'entre les morts. Et nous ne pouvons, si c'est votre position, que vous inviter ardemment et avec amour à réfléchir à cela, à votre positionnement face à cette affirmation de l'Écriture, Christ est ressuscité. Pour nous qui croyons fermement à l'œuvre salvatrice de Christ, Fils de Dieu, Seigneur et Sauveur, à sa mort pour nos péchés, à sa résurrection, qui dans sa grâce et par la foi nous donne le pardon et l'assurance de la vie éternelle. Pour nous, donc, il importe que nous vivions chaque jour cette réalité. Il importe que les soucis de la vie, les charges du quotidien, les œuvres à accomplir ne nous fassent oublier cet essentiel. Christ est mort et ressuscité. Notre espérance, notre salut, notre vie. Ce que les chrétiens disent volontiers chaque dimanche de Pâques, Christ est ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. Il faut que nous le disions, que nous le proclamions et que nous le vivions et nous le disions à nous-mêmes. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Deuxième attitude que Paul rencontre à Athènes après son discours, l'indifférence. Paul, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Une autre fois. D'autres choses nous appellent maintenant, peut-être demain, ou la semaine prochaine, ou jamais. Nous t'écouterons peut-être. Finalement, ce que tu nous dis ne nous intéresse pas suffisamment pour que nous voulions nous y arrêter plus longuement maintenant. Tant de choses peuvent nous intéresser, nous occuper, nous distraire, nous passionner. Les dernières nouvelles politiques, les informations susceptibles de nous faire gagner de l'argent, les potins, les nouvelles sportives, bientôt les Jeux Olympiques, nos affaires familiales, domestiques, amoureuses. Nous avons beaucoup de choses à faire, à voir, à discuter. Alors, nous t'entendrons une autre fois. Nous réfléchirons alors peut-être à ce discours. Un Dieu créateur qui juge la vie des hommes, quelqu'un qui serait mort puis ressuscité d'entre les morts. Oui, au moins c'est nouveau, c'est curieux. Mais nous aurons le temps de nous y intéresser plus tard, peut-être, peut-être. Autour de nous, hélas, beaucoup d'hommes, de femmes qui ont entendu vaguement ces choses. L'Évangile, Christ le Fils de Dieu, mort et ressuscité. Beaucoup sont et restent indifférents. Beaucoup ne s'intéressent pas, ne cherchent pas vraiment à savoir, n'écoutent pas vraiment. Beaucoup portent une chaîne avec une croix, mais ne se demandent pas, ne réfléchissent pas à pourquoi Jésus n'est plus sur cette croix. Certains vont écouter le Messie de Handel et se lèveront à tel moment de l'œuvre en célébrant la résurrection, mais ne réfléchissent pas à ce que cela représente vraiment, pas seulement dans l'histoire de la musique, mais dans l'histoire de l'humanité et pour eux-mêmes. Beaucoup pourront dire, oui, je crois que Jésus a existé, je crois qu'il a été crucifié, le témoignage semble concordant, et je sais que l'on dit qu'il est revenu à la vie, qu'il est sorti du tombeau. Mais cela ne m'interpelle pas vraiment. C'est quelque chose pour les chrétiens, pour ceux qui ont la foi. Moi, je ne sais pas et je ne cherche pas vraiment à savoir. Ce n'est pas pour moi. En tous les cas, pas maintenant, j'ai le temps. Je verrai plus tard. C'est une chose peut-être pour les vieux. Vous qui êtes ici ce matin, prêtez-vous attention à cela. Lorsque nous avons pris la scène il y a peu et que vous êtes restés pour certains assis, à quoi avez-vous pensé ? C'est bien si on croit. Un jour, je réfléchirai à cela, mais pas vraiment maintenant. Est-ce qu'ils croient cela, tous ? Tous ceux qui se lèvent et prennent ce pain et ce vin, est-ce qu'ils croient vraiment que Christ est ressuscité ? Ou simplement, j'espère que ça ne va pas être trop long. Lorsqu'Israël était dans le désert, attaqué par des serpents venimeux suite à leur révolte, leur désobéissance à Dieu, Moïse fut un serpent d'airain qu'il cloua sur une croix. Ça nous est rapporté en Nombre, chapitre 21. Et tous ceux qui simplement regardaient avec foi à ce serpent d'airain cloué étaient guéris et sauvés. Simplement. Je me souviens, étant enfant, comme cette image me frappait. Mais c'est trop simple. Et ils ne le font pas. pas tous. C'est là une image du salut offert en Christ. Les Israélites, dans le désert, s'ils restaient indifférents, s'ils refusaient de regarder ailleurs, de regarder à ce serpent des reins, mais regardaient ailleurs, mouraient dans leur révolte, dans leur refus du remède si simple qui leur était présenté, qui leur était offert. Il en est de même aujourd'hui. Rester indifférent, même sans être hostile, ce n'est pas suffisant. C'est dangereux. C'est refuser le pardon, la grâce, la vie. Est-ce là ce que vous voulez vraiment ? Pour nous qui croyons, qui avons participé à la scène, entre autres, sommes-nous conséquents, cohérents dans nos vies par rapport à notre foi affirmée ? Vivons-nous notre foi en Christ, mort et ressuscité, pleinement ? Ou réservons-nous cela au dimanche matin, entre 10h15 et 11h45, ou entre 18h30 et 19h30, voire à ces deux tranches d'horaire, et à quelques autres occasions dans la semaine. Nous estimerons-nous alors en règle avec ce simplement, avec ce que c'est que de croire en Jésus-Christ et de pouvoir vraiment se dire chrétien. Oui, il est malheureusement possible de croire en ces choses essentielles et de vivre en les oubliant. De vivre comme si cela avait peu d'impact dans notre vie personnelle, dans nos relations, dans nos activités, dans nos choix. Je suis chrétien, je vis correctement, je ne vole pas, je paye mes impôts, je ne me drogue pas, je suis fidèle à mon conjoint, j'aime mes enfants, tout va bien, tout est bien. Je vis en fait tout à fait comme mes voisins, mes collègues qui mènent des vies moralement correctes. Mais est-ce suffisant ? Est-ce cela être chrétien ? Où est ma spécificité en tant que chrétien ? Est-ce que je m'efforce de plaire à Dieu, de suivre Christ ? Est-ce que je laisse l'Esprit travailler en moi ? Est-ce que ma vie appartient à Dieu ? Ou est-ce que je le laisse y venir de temps en temps, quand cela me convient, quand je ressens un besoin, quand j'ai besoin de son aide. Un livre est paru récemment au titre évocateur, Le chrétien athée. Et Balzac avait écrit il y a un certain temps, La messe de l'athée. Vivre autre chose que ce que l'on dit croire. Est-ce là ce que nous vivons ? Prenons garde de ne pas vivre ainsi notre foi. Et alors la troisième réaction que Paul rencontre, quand même la foi de quelques-uns. Il est assez classique de considérer et de dire que le discours de Paul à Athènes fut un échec. Et cela me semble totalement faux. Certes, comme nous l'avons vu, ses auditeurs n'ont pas tous reçu l'évangile avec foi, loin de là. Mais où est-il dit que la prédication de l'Évangile rencontrerait une acceptation universelle immédiate ? Christ lui-même a-t-il convaincu immédiatement et totalement ses auditeurs ? Et si Paul a rencontré à Athènes la moquerie, l'indifférence polie, il a aussi suscité la foi de quelques-uns, ceux qui ont été touchés par ses propos et qui ont cru, et dont les noms nous sont laissés, au moins pour deux d'entre eux, Denis et Damaris, un homme et une femme. Et nul doute que Dieu a connu le nom de tous les autres qui ont cru, comme il connaît nos noms à nous qui avons cru. Et il connaît aussi le nouveau nom qu'il nous réserve. Chacun de nous, croyant, il nous connaît. Il nous connaît intimement par nos noms. Chacun de nous, nous sommes précieux à ses yeux, comme Denis, comme Damaris et les autres, qui crurent et qui furent précieux. Et je crois que nous pouvons dire qu'ils restent précieux à ses yeux. De même parole, un même discours, des réactions différentes. La moquerie, le rejet de certains, l'indifférence d'autres, la foi enfin d'un petit groupe. Aujourd'hui encore, dans la grâce de Dieu, plusieurs, beaucoup, ici et de par le monde, sont touchés par l'Évangile. Ils croient que Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur des hommes, qu'il est mort et ressuscité, et qu'il leur ouvre la voie vers le royaume de Dieu. Plusieurs, sans doute, passent-ils de la moquerie, voire de l'opposition active ou de l'indifférence à la fois. Cela n'a-t-il pas été le cas de l'apôtre Paul lui-même, passer de l'opposition agressive aux croyants et à Christ, à la foi entière dans son Seigneur? Ce peut être votre chemin. Peut-être avez-vous, dans le passé, un jour rigolé de l'Évangile. Une belle histoire peut-être, mais tellement incroyable et dépassée. Peut-être êtes-vous longtemps resté dans une position d'indifférence et d'attente très patiente. Je verrai un jour. J'y réfléchirai peut-être demain ou après-demain ou l'année prochaine ou si j'ai le temps. Mais aujourd'hui, il vous est possible de sortir de cette attente, de cette indifférence, de cette assistance respectueuse, par exemple à ce culte ce matin. Il vous est possible de sortir de cette position et d'entrer dans la foi en Christ. Oui, c'est possible. Et nous pouvons, comme il l'était pour Paul, pour Denis, pour Damaris, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Si vous pouviez entendre vraiment et venir en Christ. Aujourd'hui, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et il insiste tellement, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne fermez pas vos cœurs. Répondez aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Qui sait demain ce qu'il en sera? Nous avons vu récemment, de manière tragique, la fragilité de la vie humaine. Vous êtes à un spectacle ou à une terrasse de café, et peut-être la minute d'après, vous êtes mort. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Laissez l'Esprit vous mener à la vie, à la vraie vie, à la vie éternelle. Laissez-le inscrire vos noms dans le livre de la vie. Pour nous qui avons cru, qui croyons et affirmons, qui redisons Christ mort et ressuscité, Christ notre joie et notre espérance, réjouissons-nous. Vivons pleinement cette grâce magnifique, nous qui étions des pécheurs, même si nos vies en apparence étaient respectables, nous qui savions à quel point nous étions loin de Dieu et de sa sainteté, et incapables de devenir suffisamment saints pour lui être agréable et pour espérer être acceptés de lui. Nous qui nous sachons ainsi perdus, irrémédiablement perdus, avons pu profiter de ce salut immérité, total, définitif. En Christ notre Sauveur, vivons ce salut. Soyons dans la joie, dans l'allégresse, et nous vivrons rachetés, lavés, pardonnés, aimés par Dieu notre Père, par Christ notre frère, par l'Esprit notre consolateur, notre ami, notre guide. Pour conclure, Paul a parlé à ses Athéniens, dont il avait observé les habitudes, les coutumes, le vécu religieux, et dont il connaissait les besoins profonds, identiques à ceux de tous les hommes. Il a parlé de Christ, de l'Évangile, il a dit ces choses essentielles. Et cela a éveillé un minimum la curiosité de ces Athéniens, qui lui ont donné l'occasion de s'exprimer publiquement, avec le résultat que nous connaissons, dont nous avons parlé, rejet et moquerie de certains, indifférence de beaucoup, et foi de quelques-uns. Le monde a changé. Les civilisations changent et passent. Les cultures changent. Les convictions religieuses changent. Les comportements changent. Les hommes sont les mêmes. Les hommes sont les mêmes. Les Parisiens, aujourd'hui, sont peu différents des Athéniens du 1er siècle. Ceux-ci passaient leur temps à écouter des choses nouvelles, les Parisiens et les autres. Ne passent-ils pas leur temps à écouter et partager aussi des nouvelles vraies ou fausses, intéressantes ou futiles ou choquantes? Vous imaginez que les Athéniens auraient été branchés sur BFM TV en permanence. Aujourd'hui, est-ce très différent? La toile aujourd'hui ne ressemble-t-elle pas à l'aréopage d'Athènes ? Les hommes sont les mêmes et leurs besoins sont les mêmes. Et en particulier, leurs besoins spirituels. Nous qui croyons en Christ, Sauveur et Seigneur, mort pour nos péchés, pour le péché des hommes, ressuscité pour leur salut, nous nous devons, là où nous sommes, et selon ce que Dieu confie à chacun, nous nous devons de témoigner, comme Paul le fit à Athènes et ailleurs. Nous devons parler de Christ, présenter son œuvre, dire le salut offert, dire qu'il est mort et ressuscité. Nous le ferons, nous le faisons dans les églises, dans des rassemblements divers, dans des livres, dans les contacts que nous avons avec nos familles, nos amis, nos collègues, nos voisins, dans des rencontres régulières ou occasionnelles. C'est là notre vocation, notre ministère à chacun. Nous ne le vivrons pas tous de la même manière, mais tous nous pouvons, nous devons y participer directement, activement, par nos paroles, par nos prières, par notre soutien à nos pasteurs, à nos missionnaires, par nos soutiens aux témoins. C'est là notre devoir, mais c'est aussi un beau privilège d'être associé ainsi à l'œuvre salvatrice de Christ. À notre humble niveau, soyons des messagers de cette bonne et belle nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Vivons là cette belle nouvelle, parlons-en, partageons-la. Elle est toujours puissance de Dieu pour tous ceux qui croient et reçoivent la grâce de Dieu, le pardon de leurs péchés, le salut de leur âme et la vie éternelle.